Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez pu vous reposer. On a fini, je ne sais pas à quelle heure hier soir, je crois que c'était 10h30. Pour le coup, qu'on ait quelque chose à faire en rentrant, on ne se couche pas avant minuit, 1h du matin, quoi. Pas évident. Alors, je vais prier avant. Seigneur, merci pour ce moment où on peut ouvrir ta parole et Seigneur, où tu peux nous parler. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour la Bible, parce que c'est ta parole, c'est la parole de Dieu. Et Seigneur, c'est par cette parole aussi que tu nous enseignes, que tu nous conduis, que tu nous éclaires. Et nous voulons t'en remercier. Seigneur, veuille ce matin, et Seigneur, nous interpeller, nous encourager, nous exhorter au travers de cette lecture. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous arrivons à un moment particulier de l'évangile de Jean. Ça fait plus d'un an et demi qu'on est dessus. On va lire le chapitre 18, des versets 1 à 11. Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du ravin du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens, et il s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils répondirent : Jésus de Nazareth. Il leur dit : C'est moi. Judas qui le livrait se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur dit : C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-vous ? Et ils dirent : Jésus de Nazareth. Jésus répondit : Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. C'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite : Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du sacrificateur était Malchus. Jésus dit à Pierre : Remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ? Qu'est-ce que je vais pouvoir bien dire là-dessus ? Pas évident, hein ? C'est l'intérêt de l'enseignement systématique, parce qu'en général, on parle de ce passage-là, mais au travers d'un ensemble, c'est-à-dire on parle de la crucifixion, alors on évoque l'arrestation, etc. Mais que l'arrestation, de mémoire, j'ai jamais entendu une prédication là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est que les quatre évangiles progressent tous vers la passion. Tous progressent vers la passion et la résurrection du Messie. Ça, c'est tous les évangiles. Ils sont dans ce sens-là. Nous étudions l'évangile de Jean depuis pratiquement un an et demi. Nous allons terminer début 2015. Nous arrivons aux portes des événements cruciaux des évangiles et en l'occurrence de l'évangile de Jean. À partir d'aujourd'hui, on va toucher au point culminant des évangiles. D'ailleurs, s'il n'y avait pas ça, ce point culminant, ça ne serait plus les évangiles. En lisant ce texte, j'ai tout de suite pensé aux paroles de Jésus que nous avons étudiées déjà dans Jean 10, versets 17 et 18, où il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. » Et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus est arrêté parce qu'il le veut bien. C'est sa décision. C'est lui qui accepte cette arrestation. Alors au verset 1, on retombe un peu dans les mêmes clichés que les autres chapitres, que quelques-uns des autres chapitres, en l'occurrence celui que nous avons étudié la dernière fois. Après avoir dit ces choses, c'est-à-dire après la prière sacerdotale. Hein ? Donc le chapitre 18 commence par « après avoir dit ces choses ». Donc c'est cette prière qu'il a prononcée, que nous avons étudiée la semaine dernière. Et comme d'habitude, l'expression « après avoir dit ces choses » englobe beaucoup plus finalement, que la prière qu'il a formulée avant, tout ce qu'il a dit. C'est une continuité, il y a une progression. Il y a, comme je le soulignais à l'instant, le point culminant. Tout va vers, et après avoir dit ces choses, et puis on continue jusqu'à la passion. Judas a fait le sale boulot. Judas a fait le sale boulot. Concernant cet homme, il y a plein de théories. Plein de théories concernant Judas. Pour les uns, Judas est cupide. Pour les autres, c'est une sorte de, on va dire, de craintif, qui finalement a décidé, pour conclure un marché, parce que c'est les ennemis de Jésus le cernaient de toutes parts, il voyait un petit peu ce qui se passait, et puis il a eu peur, il s'est dit, bon, autant me retirer tirer mon épingle du jeu, et laisser faire ce qui doit arriver de toute façon, ça va arriver. Certains en font un être qui est complètement désillusionné. Pourquoi Jésus a mis de l'ordre au temple avec un fouet au lieu de soulever une armée? Vous voyez, dans la tête de Judas, il peut s'en passer des choses. Peut-être aussi que Judas aurait été irrité par la douceur de Jésus. Vous savez, un petit peu à l'instar des militants palestiniens modernes ou irlandais. Judas n'aurait pas eu la patience de mener une révolution lente et non violente. Espérait-il forcer la main de Jésus? Vous voyez, on peut se poser plein de questions. Se dire, mais s'il organisait son arrestation, peut-être il s'est dit que Jésus ne tarderait pas à révéler son identité divine et à asseoir son royaume. Judas serait-il un rebelle héroïque d'Hollywood? Bien, le problème, c'est que la Bible, l'évangile de Jean, au chapitre 13, verset 27, la Bible dit simplement « Satan entra en lui ». Satan entra en lui. Et lorsque Judas arrive dans le jardin, Jésus l'appelle encore son ami. Vous n'avez pas lu ça, non, dans Jean. Mais il l'appelle encore son ami, on va le lire. On peut le lire ensemble dans Matthieu 26, versets 49 et 50. Aussitôt, il, Judas, s'approcha de Jésus en disant « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, portaient leurs mains sur Jésus et le saisirent. Les autres disciples s'enfuirent, mais il les aima malgré tout. Son pays décida de l'exécuter, et pourtant, on peut voir Jésus dans la passion, nu, humilié, bafoué, rejeté. Et Jésus se redresse pour crier, « Père, pardonne-leur. » Il n'y a pas de contraste plus surprenant que les deux destinées humaines de Pierre et de Judas. Tous les deux, dans l'équipe des disciples, ils assument un poste de responsabilité. Tous les deux, Pierre et Judas. Tous les deux ont vu et ils ont entendu des prodiges. Ils étaient avec Jésus, ils ont vu les miracles. Ils ont entendu ce que Jésus a dit. Ils étaient là, témoins. Tous les deux ont connu finalement l'indécision et sont passés successivement, on va dire, de l'espoir à la peur et de la peur à la désillusion. Ils ont parfois eu la trouille, parfois ils étaient désillusionnés parce qu'ils attendaient à ce que Jésus assoie son royaume, et puis ça se passait pas, et puis Jésus parlait, et puis d'un coup ils étaient enthousiastes, et puis, vous voyez, c'était tout le temps en dents de scie, quelque part, dans leur cœur, certainement. Et lorsque les enjeux sont devenus plus menaçants, c'est-à-dire quand il y a eu vraiment la menace, là, quand il y a eu cette arrestation, tous les deux ont renié leur maître. Tous les deux. Et c'est à ce moment qu'ils ne se sont plus du tout ressemblés. Judas et Pierre sont complètement différents. Judas, lui, il a été rempli de remords, mais il n'est pas allé jusqu'à la repentance. Il ne s'est pas repenti. Il s'est suicidé. Il est devenu le plus grand traître de l'histoire. Il est mort sans chercher à recevoir ce que Jésus, finalement, était venu lui offrir. Pierre, lui, il fut humilié. Lui, il a connu l'humiliation. Mais il était toujours ouvert au message de la grâce, et au pardon de son maître. Tout le temps, il a toujours été ouvert. Il s'est relevé, il a commencé une œuvre de réveil à Jérusalem et il a continué son ministère jusqu'à Rome. Pierre et Judas, totalement différents. Dans l'évangile de Jean, on passe directement de la prière donc sacerdotale à l'arrestation de Jésus. Et l'évangile de Matthieu nous donne quelques éléments qui peuvent nous aider aussi à établir un peu la chronologie des événements. Alors, il est certainement entre minuit et 1h du matin. Jésus, il est confronté à l'ultime tentation d'échapper à la croix, échapper à la colère de Dieu qui t'est destinée, qui m'est destinée. L'ultime tentation. Parce qu'il a été tenté. Hein. C'est difficile. Hein. Jésus demande aux disciples de prier avec lui. Pierre, Jacques et Jean. Il est alors saisi d'une angoisse profonde devant cette épreuve. Il sue des grumeaux de sang. Il prie son père. Père, pas ma volonté, mais la tienne. Les disciples dorment. Peut-être, c'est compréhensible, hein, après une longue journée de marche et un gros repas. Matthieu 26, versets 45 et 46. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici que l'heure approche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » À ce moment-là, il est peut-être environ 3 heures du matin. Peut-être que Judas a emmené les troupes au lieu du dernier repas. C'est possible que Judas, il ne savait pas trop, donc il les a amenés au lieu du dernier repas. N'ayant pas trouvé Jésus, il s'est dit, ben, il doit être dans le jardin. Il est allé au jardin. Les choses se tiennent, hein, car Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Jean 18, verset 2. Ça se tient. Alors j'ai pensé aux autres disciples. Je me suis dit, ah, quand même, vous imaginez un peu. Vous faites partie des 12. Et vous voyez votre pote, avec qui vous avez passé 3 ans, arriver avec les gardes pour s'emparer de votre maître. Ça, hein, quand même, hein, non, enfin, je sais pas, mais enfin, moi, j'aurais un petit peu, comme on dit, les boules, hein. Je sais pas vous, hein, mais si c'était moi qui avais écrit l'évangile, j'aurais écrit au moins un chapitre, voire 2 sur Judas. J'aurais fait une tartine sur Monsieur Judas. Si c'était moi qui avais écrit un évangile, ah ben oui. Judas, franchement, quoi. Ah, celui-là, hein, il nous a bien eu. Hein. Mais, à la place de Jean ou Matthieu, hein, j'aurais exprimé certainement ma colère. Ils ne l'ont pas fait. Ce qui est relaté dans la Bible est tout simplement l'un des 12. L'un des 12. C'est quand même fou, ça. Quand on voit les choses sous cet angle-là. Ajoutons que Judas n'a pas dit un seul mot à Jésus pour essayer de justifier cet acte. Il n'a pas essayé de dire quoi que ce soit. Il est arrivé et puis il a embrassé Jésus. Aucun reproche, je ne sais pas, mais moi je m'imagine un petit peu quand même, je ne sais pas, du style « tu es un faux messie » ou « j'ai attendu longtemps, je croyais que tu allais régner et puis j'en ai ras-le-bol d'attendre ». Tu nous prends pour des billes, je sais pas, un truc pour laquelle il avait une raison, quoi. Ou j'ai perdu mon temps avec toi, j'ai ruiné ma vie conjugale. Par exemple, hein. Vous croyez que ce que je dis là, c'est des bêtises? Un texte apocryphe, un manuscrit copte, affirme, écoutez bien, je cite, hein, « Quand des fois Judas s'en retournait à la maison, ayant des sommes entre les mains, des sommes d'argent, hein, elle avait coutume de se réjouir. » Son épouse, hein, de ce qu'il avait fait. Et quand il n'avait rien, elle avait coutume de le tourner au ridicule. De cette façon, donc, par suite de l'instabilité, de l'insatiabilité et du mauvais œil de sa femme, elle lui conseilla cette grande chose si terrible à savoir. Voici que les Juifs poursuivent ton maître. Lève-toi donc et livre-le leur. On te donnera beaucoup de richesses et nous les mettrons pour nous dans notre maison afin d'en vivre. Il se leva, le malheureux, après avoir écouté sa femme, de la même manière qu'Adam écouta sa femme, jusqu'à ce qu'il devint étranger à la gloire du paradis, et de cette façon que la mort domina sur lui et sa race. Cinquième fragment, manuscrit copte, qui nous conseille bien sûr de ne pas écouter nos femmes. Hein. Je plaisante. En tout cas, Judas débarque avec cette cohorte, les gardes armés jusqu'aux dents, dans ce fameux jardin que l'évangile de Jean ne mentionne pas en tant que jardin des Oliviers. On le sait grâce aux autres évangiles, mais c'est le jardin, quoi. Jean est encore une fois dans la symbolique, parce qu'il nous présente le jardin des origines, quelque part. Jean, il est là-dedans, il est dans ce truc-là. Avec Jean, il y a le jardin de l'arrestation, le jardin de la résurrection, et puis au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu au commencement, vous voyez. On est un petit peu... Jean écrit son témoignage, mais en mettant aussi derrière des symboles qui nous rappellent aussi l'histoire biblique. Au passage, mais ça c'est surprenant, je vais souligner aussi qu'une cohorte... Vous savez ce que c'est une cohorte? C'est une garnison militaire. Vous savez combien de personnes il y a dans une cohorte? Combien? 400. 400 personnes, sans compter les pharisiens, etc. 400 personnes sont venues arrêter Jésus. 400. Tout de suite, on ne lit pas ce passage de la même manière, tu vois. De suite, il y a des choses qui nous disent, mais oh, qu'est-ce qui s'est passé là dans ce jardin? D'un côté, tu as une dizaine de personnes, avec Jésus, avec ses disciples, et de l'autre, tu en as 400, armés jusqu'aux dents. Et pourtant, c'est Jésus qui, d'un bout à l'autre, va être maître des opérations. Par exemple, c'est lui qui va poser la question, « Qui cherchez-vous ?» La suite au verset 5. Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Et il leur dit, « C'est moi !» Ego hemi. Ego hemi. Vous savez, on l'a vu depuis le début de l'évangile de Jean. Je suis. Quand il dit « c'est moi », en fait, il dit « je suis ». Je suis celui qui suis. Je suis. Ego hemi. Mais c'est impressionnant. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'utiliser le terme que Moïse, sur la montagne, Jésus lui a dit, mais écoute, Dieu lui a dit, mais écoute, tu diras, celui qui t'envoie, c'est je suis. Et Jésus, tout au long de l'évangile de Jean, utilise ce mot. Je suis, ego emi. Le texte précise que Judas était là, et au verset 6, lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. 400 personnes. Vous imaginez un peu. Celui qu'on vient arrêter n'est pas un simple personnage, c'est pas un mafieux, hein, connu ni un brigand, mais c'est Dieu lui-même. Imaginez la scène. 400 personnes, une phrase, deux mots, tout le monde est précipité par terre. Moi, je me serais barré. Hein. Franchement, ouf. C'est peut-être ça qui a donné le courage à Pierre de dégainer son épée ou son couteau. C'est vrai. Peut-être ça qui lui a... Waouh ! Ça va, quoi, je peux y aller. Hein. C'est pas de problème. Hein. Sincèrement, devant 400 personnes, qui aurait eu le courage de faire, je sais pas comment on dit à Marseille, le cacou, hein, avec le couteau ? Bref, Jésus reprend la parole pour poser la même question. Qui cherchez-vous ? Pourquoi il reprend la parole, d'après vous? Il reprend la parole parce que s'il n'avait pas repris la parole, il ne l'aurait pas arrêté. Peut-être qu'il ne l'aurait pas arrêté. Puisqu'avec humour, au verset 7 et 8, Jésus leur demande de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur répondit, ben, « Je vous ai dit que c'est moi. » Et Jésus met ensuite à l'abri ses disciples. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. Il met à l'abri ses disciples. Il y a aussi derrière ces mots quelque chose de théologique. De la même manière que quand il dit c'est moi. De la même manière que quand il parle du jardin. De la même manière que quand il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il y a une parole théologique qui concerne le salut. Laissez partir ceci. Il a commencé avec ses disciples et il continue avec nous. Nous sommes ses enfants. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Et si tu connais Christ ce matin, c'est parce que le Père t'a donné à Christ. C'est fantastique quand même. Habituellement, dans les évangiles, on lit « C'est ainsi que devaient s'accomplir les Écritures ». Ici, Jean souligne que la parole que Jésus dit, c'est les Écritures. Ou si vous préférez, les Écritures, c'est aussi la parole de Jésus. Jésus est la parole de Dieu. On arrive maintenant à l'arrestation, à proprement dite, et il s'y passe des choses durant cette arrestation. On relit les versets 10 à 11. « Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» Alors, ni Luc ni Matthieu ne nous disent qui frappe cet homme. Seulement Jean nous dévoile que c'est Simon-Pierre, mais aussi le nom de celui qui est frappé à l'oreille, Malchus, un des ministres du Sanhédrin. Alors une oreille ? C'est étonnant, hein ? Quand même. C'est quand même étonnant. Pierre serait devenu un spécialiste du combat aux armes blanches ? Je ne sais pas, mais il a visé ? D'après vous ? D'après moi, il visait la gorge, hein. Et il a loupé son coup. Ah, avec P et sans P. Il a loupé le coup, quoi. Et une précision, pas des moindres, hein, ça nous est donné aussi un peu plus tard, au verset 26. Cette précision, selon moi, vient attester la véracité du récit. Je cite, « Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Parce que c'est un parent de celui qui s'est fait couper l'oreille. C'est quand même des petits détails qui ont leur importance. À quoi bon inventer un détail comme ça ? À quoi ça sert d'inventer ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des détails, mais à quoi ça sert de les inventer ? Alors, il y a un théologien qui s'appelle Godet qui dit « Cette invention de la part de Jean dans un évangile si bien rédigé serait, je cite, pitoyable. » Pitoyable. Seuls Luc et Jean nous rapportent la guérison de l'oreille de Malchus. C'est la seule fois où une plaie vive est guérie par Jésus. C'est la seule fois dans les évangiles. Et ici, Jésus n'a besoin ni de la foi de cet homme, ni de la boue, ni de quoi que ce soit. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il agit, il guérit. Dieu règne. Il est capable de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas aux hommes de prendre son œuvre en main. Et lorsque Jésus dit que le Père pourrait envoyer 12 légions d'anges, vous savez jusqu'à combien ça peut aller, 12 légions d'anges ? 72 000. Ça va ? Ça va quand même, hein ? Deux rois, au chapitre 19, verset 35, nous dit qu'un seul ange a tué 185 000 personnes. Ça va, 72 000 anges ? Or, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa l'ange de l'Éternel dans le camp assyrien, 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici que c'était tous des cadavres. Un seul ange jette une faucille sur la terre lors de la bataille d'Armageddon, et le sang des hommes et des femmes rebelles à l'Évangile s'étend jusqu'à 1600 stades. Apocalypse 14. Un seul ange lira Satan pour 1000 ans. Un seul. Quand il parle des légions, de 12 légions d'âge, mais si... Voilà, je ne sais pas si on arrive à réaliser. Moi, ce genre de petits détails dans les évangiles, ça m'impressionne. Ça me donne une vision de Jésus qui est renouvelée. Pensez-vous qu'ils auraient pu arrêter l'arrestation de Jésus ? C'est 72 000 anges. Sans problème. Ils auraient pu tout arrêter d'un seul coup. C'est fini. Terminé. On arrête. On a assez joué. c'est le Fils de Dieu. Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau, arrête ton cinéma finalement. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Le dernier verset pour aujourd'hui. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Jean ne dit rien sur le principe fondamental qu'il soulève dans d'autres évangiles. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée, il n'en parle pas. Le but de Jean est autre. C'est de nous présenter l'identité divine de Jésus. En fait, Jean, il se centre là-dessus. Il nous montre qui est Jésus. Il nous montre son identité. Il nous montre qu'il est Dieu. Il est la parole faite chair, qui donne sa vie au monde. Jésus est à la fois la parole divine incarnée et aussi l'humilité de cette parole qui s'est faite chair. Le chapitre 18 de Jean n'a pas besoin d'un autre éclairage. Je vous cite quand même celui de Matthieu pour que nous puissions un peu visualiser la scène. À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis dans le temple, j'enseignais et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais tout cela est arrivé, afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Matthieu 26, 55, 56. On reste sur cette touche, peut-être un peu négative, pour le moment. Mais les choses, elles vont bientôt changer. Ça va être dur, on va passer par des moments difficiles, Jésus, mais au bout du compte, on va être dans la résurrection. Et ça, c'est pour nous, c'est pour toi, c'est pour moi. Je peux prier ? Seigneur, merci pour ce passage encore qui nous montre ta personne, qui tu es. Seigneur, nous sommes émerveillés. C'est fantastique. Seigneur, on le chante, sois élevé, sois béni au plus haut des cieux. Tu es notre Dieu, tu es notre Roi, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Seigneur, nous sommes encouragés ce matin. Nous sommes là, réunis, autour de toi. Tu es présent au milieu de nous. Tu es ce Jésus qui était dans ce jardin, qui pouvait appeler une légion d'anges. 12 légions d'anges. C'est toi qui as dit « Je suis ». Tu as renversé cette armée qui était là pour t'arrêter. Alors, Seigneur, merci de nous exhorter ce matin par ces détails qui nous font tellement du bien, qui nous rappellent qui tu es. Tu es le roi des rois. Merci Seigneur. Amen.